Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les tatouages.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là. Si vous en questions.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à notre émission numéro 290. Aujourd'hui, on est avec Valenciennes, donc j'en fais partie. Voilà, donc on va commencer par la musique de Sophie, Calvin Harris, Stars Come Out.
Ensuite, on a la pensée de la semaine d'une grande revenante, Nathalie, voilà, qui était bloquée dans les embouteillages du côté de... Bah, elle nous le dira si elle veut bien le dire, je sais pas. Donc, le thème, c'est l'amour. Donc, un truc, il paraît que c'est un tout nouveau mot qui revient, ou je sais pas comment ça se fait. On va parler d'amour, voilà.
Ensuite, on aura le poème de Bruno.
Récit de voyage, c'est un voyage que j'ai fait, voilà. Ensuite, il y aura la chronique santé de Margot, les féculents.
Voilà. Ensuite, la chronique foot de Florent.
Et ce sera suivi de la musique de Bob Marley, un morceau de Bob Marley dont je n'ai pas le titre.
C'est Rat Race.
Ah oui, il parle pas français, mais c'est pas grave.
Ensuite, donc, une intervention de l'Association des paralysés de France, suivie d'un débat, enfin une interview plutôt.
Oui. Moi, je vais dire ma connerie à la PF, s'ils veulent vraiment s'assurer au mieux possible qu'ils aillent à la GF. Mais ça n'existe plus, la GF. C'est ça le problème, quoi. C'est, oui, voilà. Donc, ensuite, la chronique littéraire de Sophie sur Albert Camus. Le titre du
d'après... C'est Les Justes, c'est une œuvre majeure d'Albert Camus. Hein.
Oui, je connais pas. Enfin, j'ai lu Albert Camus, mais cette œuvre-là, c'est injuste, je ne l'ai pas lu. Voilà.
Et ensuite, donc, une musique de Brahim, Ayam, l'école du micro d'argent.
On va commencer tout de suite par la musique de Sophie, qui va nous présenter en quelques secondes le morceau.
Ouais, c'est comme Calvin Harris, ça s'appelle Star Comes Out. Et c'est un morceau qui bouge.
Power to when the stars come out. Lying in the grass, watching the stars come out.
Pour moi, il n'y a pas de fou. Et il n'y a même pas de malade mental.
Les entonnoirs, les entonnoirs.
La pensée de la semaine. Chut, chez les entonnoirs.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous accueillons aujourd'hui l'Association des paralysés de France qui sont venus voir un petit peu notre travail aux entonnoirs, donc je leur souhaite la bienvenue. Alors cette semaine, dans la pensée de la semaine, donc nous allons parler du papillon qui s'appelle l'amour aujourd'hui. Ne chassez pas les papillons, ils sont comme l'amour. Plus vous chercherez à les piéger dans vos filets, plus ils vous échapperont. Laissez-les se poser, libres et légers, sur votre épaule sans contrainte et sans bruit. Ils se laisseront séduire et admirer. Puis, ils s'envoleront, puis reviendront, ou charmés, le temps de poser leurs ailes fragiles au creux de vos mains, ou le temps furtif d'un vol de papillon. Voilà. Que pensez-vous de ceci ? Qu'évoque le mot amour pour vous, Bruno ?
Moi, la fidélité, bien sûr. C'est très important.
C'est un truc dingue. C'est, a priori, comparer l'amour à papillon, ça paraît banal, entre guillemets. Mais oui, non, mais dans le sens où le papillon, c'est un animal, a priori, tout bah, ordinaire, quoi, le papillon. Et puis finalement, quand tu dis que le papillon, c'est lié à l'amour, bah, ça va très bien parce que le papillon, comment dire, même si c'est éphémère, comment dire, ça a toutes les couleurs, il y a plein de sortes de papillons. Et puis, comment dire, il y a les ailes, quoi, le papillon.
Alors moi, je voulais dire que quand je ressens l'amour, ce sont des sentiments que j'ai envers quelqu'un, et c'est un petit peu philosophique, mais l'amour, c'est la beauté du corps, de l'esprit et du cœur.
Et en amour, il y a plusieurs expressions dans l'amour. Hein, on peut aimer quelque chose, on peut avoir de l'amitié envers quelqu'un, ça peut être l'amour. Ça peut être... Il y a plusieurs termes dans le mot amour.
Oui, comme tu dis, Margot, plusieurs termes, effectivement. Il y a l'amour charnel, il y a l'amour amical, il y a l'amour maternel, il y a l'amour paternel. Et l'amour platonique, me dit à l'oreille Blandine. Mais c'est vrai, c'est... voilà.
Moi, je dis, quand vous pensez-vous de l'amour, eh ben, l'amour, c'est un ange. L'ange vous protège contre le bien, contre le mal. N'est-ce pas, Bordine ?
Et puis, on n'oublie pas la Saint-Valentin, qui est le 14 février. Hein. Hein, les garçons, vous oubliez pas les femmes.
Ouais, mais,
hein.
Ouais, mais en même temps, voilà. Mais en même temps, Nathalie, vous réduisez l'amour à encore entre. C'est vrai que c'est, ça peut être la Saint-Valentin, mais c'est pas que ça.
Non, l'amour, c'est tous les jours. Hein. C'est un vol de papillon.
C'est quelque chose d'extrêmement large.
Voilà, tout à fait.
N'est-ce pas, mon cher monsieur ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Bah, je trouve que c'est pas simplement un jour qu'il faut penser, c'est à tous les jours qu'il faut le penser. Je trouve que c'est pas en disant une fois de temps en temps que faut le dire tous les jours.
Oui.
Bonjour à tous. Moi, pour moi, le mot amour, c'est un mot très important dans la vie. Je pense que si ce mot était dans la conscience de tout le monde, je pense que la vie serait beaucoup mieux pour la majorité des personnes sur Terre.
Et en plus, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas dire « je t'aime ». Ben, il faut apprendre à dire « je t'aime » parce que c'est une très très belle chose.
Oui, moi je voudrais rapporter l'amour, c'est pas simplement des mots, une idée abstraite, c'est aussi par l'amour que se donne la vie. Oui, l'accouplement de deux personnes, un homme et une femme, ça permet de, ça donne la vie, je crois. C'est pour ça que j'avais écrit en définitive, ma religion c'est l'amour, car l'amour donne la vie, c'est tout con. Voilà. Mais autrement, moi j'en ai marre, on emploie le mot amour pour le rendre guimauve à des moments, ça me rend malade. Voilà.
Excusez-moi, bonjour, voilà, moi pour moi, je m'appelle Hakim, et moi pour moi l'amour ça vient du cœur. Autrement, il n'y a pas d'amour. Voilà ma seule et bonne raison, et je suis persuadé que j'ai raison. Merci.
On va passer au poème de Bruno.
Le poème de mon poème, ça s'appelle Récit de voyage. Il date du dimanche 20 juin 2004, donc dans le recueil Le Sixième Continent. Et je l'ai repris, et puis je trouvais juste de le réciter aujourd'hui. Récit de voyage. Moi qui vis sur le sixième continent, à l'abri dans une chaude civilisation, peuplé d'hommages émouvants et caressants, grâce auxquels chacun crée sa propre liberté. De ce pays où s'édifient mes désirs, volant dans le neuf redéploiement de mon esprit et de mes sens, j'ai vu une éternité s'effriter. J'ai observé des anges qui pleuraient en mourant dans le plus infâme des ennuis. Le bonheur n'est pas l'immortalité, m'a confié une déesse, avant de s'éteindre, avec le baiser de la mort que je lui donnais, elle si vieille, mais si touchante dans mes bras. C'était un petit récit, retraçant un épisode de ma vie, moi qui, dans mes voyages, visionne souvent la réalité égarée de gens, occupés par la nostalgie languissante de leur enfance cajolée, qui n'est plus qu'un rêve assassiné. Je vois aussi un couple d'amoureux, enlacés de la chaleur d'une nuit d'été, montrant la route aux doutes cyniques d'un sceptique éploré, si seul dans les affres de sa douleur. D'autres, dans un excès de folie et de génie, fuyant un univers trop angoissant, écrivent, peignent, mettent en mélodie, filment, photographient, notre contrée si proche mais si éloignée, qui s'ouvre pourtant à tout moment, comme cette femme qui espère la pénétration. Donc je crois que je m'en suis pris un thème aussi, qui est l'éternité. Pour moi, discutons-en philosophiquement, mais la vie vit en fonction de la mort aussi, voilà, et pas en fonction d'une éternité, ça ne veut rien dire pour moi.
Ensuite, on aura la chronique santé de Margot sur les féculents.
C'est l'heure des médicaments. Médicaments.
C'est surtout l'heure de la chronique santé de Margot.
Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Donc aujourd'hui, nous allons parler des féculents. Bon, à savoir, 1. En quantité raisonnable, les féculents ne font pas grossir. 2. Souvent, leur accompagnement ou leur mode de préparation qui risque d'augmenter excessivement les calories. Sauce grasse, pommes de terre frites ou sautées à la poêle. Une grande part de frites apporte équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Ça dépend aussi quelle graisse vous mettez dans votre friture. Moi, je vous conseille de mettre de la végétaline. Donc, qu'est-ce que vous mettez comme graisse pour faire vos frites ?
Surtout pas prendre l'huile de palme, c'est très mauvais.
Hein. Oui. Alors, dans le temps, Margot, excuse-moi, dans le temps, moi, j'ai eu mes parents qui étaient charcutiers traiteurs pendant 20 ans. Mmh. Et bien sûr, on faisait les frites avec...
Du crabe d'œuf.
Du gras de bœuf, c'est-à-dire, on appelle ça du saindoux. Voilà, tout
mais
simplement.
Mais c'est très gras.
Et c'est très hyper gras et c'est pas bon pour la santé parce que ça bouche les artères.
Voilà.
Alors, faut pas toujours écouter ses parents ni ses grands-parents. Hein.
Non. Donc, quelqu'un d'autre va réagir là-dessus, non?
Blandine, qu'est-ce que tu mets dans tes frites?
Non, mais moi, je fais des frites au four. Hein.
Moi, je dirais.
Alors, dans quoi elles ont été trempées, je sais pas, parce qu'elles sont effectivement pré-frites, mais voilà, j'ai pas de friteuse. Mais avec du gras de bœuf, je peux reconnaître que c'est bon.
Oui, mais c'est pas très bon.
Mais c'est pas bon, oui.
Non.
Les frites, c'est comme la pâture, c'est peut-être, elles sont peut-être meilleures à l'huile, mais elles sont moins chères à l'eau. Enfin...
Ça, c'est sûr. Voilà.
Donc, bon, bref, manger des pommes de terre et des pâtes sans rien dessus.
Voilà, c'est ça, en fait.
Bon, bah, bon
appétit.
Parce que,
en fait, c'est ça qui fait grossir, c'est ce que vous mettez au-dessus, quoi.
Il faut pas mettre de sel dans les pâtes,
si. Mais si tu fais de l'attention, c'est pas très bon non plus.
Non.
Du poivre, Bruno, du poivre.
Voilà. Des herbes et tout ça, ça tu peux. Ça, c'est pas interdit.
Ça dépend
des
de quelle
herbes,
herbe.
Des herbes de Provence, tout ça. Je parlais pas de ce genre d'herbe. Hein,
Donc ensuite, on va passer à la chronique foot de Florent.
Bonjour, salut à tous les auditrices. J'espère que vous êtes toujours à l'écoute des entonnoirs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de transfert au niveau du football. Donc, je vais vous épargner la 23e journée de première division française. Donc, je vais commencer par la rubrique transfert au niveau national, hexagonal. Donc, dans un premier temps, Aïdara, le défenseur, l'arrière-gauche nancéen, a été acheté par Newcastle à un prix d'or, justement. Pas cher du tout. Ensuite, Johan Gourcuff de Lyon est annoncé à l'Atlético de Madrid, Benfetti Gomis à Chelsea, Lisandro Lopez à la Juventus de Turin, Jimmy Briand à Monaco et ben Michel Bastos à Schalke 04. Pour rester sur le championnat, oui. Yann Villa, qui a été suspendu pour la prochaine Coupe du Monde 2014, lui, il était plus trop utilisé à Rennes, donc c'est ce qui fait qu'il a signé à Kazan, Rubik Kazan en Russie. Et pour le remplacer, il y aurait le retour de Alou Diarra, l'ancien Marseillais qui quitterait son club de West Ham pour atterrir à Rennes pour remplacer le fameux Yann Villa. On annonce Didier Drogba dans les prochaines heures à Galatasaray, donc ça c'est chaud, donc ça c'est brûlant, donc ça veut dire que c'est imminent. Qu'est-ce que je peux parler? Donc Nicolas Anelka qui jouait en Chine a été acheté par Juventus de Turin, ça j'ai déjà dit. Qu'est-ce que je peux vous dire? Lucas Digne, l'arrière gauche du LOSC, a été approché par Liverpool et Manchester United. Et donc, pour revenir sur les transferts à l'étranger, Guardiola, l'ancien entraîneur charismatique du Barça, va entraîner le Bayern de Munich le 1er juillet 2013. Et le Bayern compte acheter Luis Suarez, l'Uruguayen, qui a fait un carton à Dana Copa America en finale et tout. Donc, grâce à lui, donc, ils l'ont gagné. Donc, ça vaut le coup de l'acheter par le Bayern, en fait. Donc Suarez va quitter prochainement Liverpool pour jouer au Bayern de Munich. Voilà. Merci.
Donc ensuite, on va avoir une pause musicale. Donc Bob Marley avec Rat Race sur le deuxième album de Bob Marley, Rastaman Vibration, quand il était encore en Jamaïque.
Oh, what a rat race.
Les entonnoirs.
Voilà, maintenant nous allons passer à l'interview de l'Association des paralysés de France, qui veut poser la première question.
La première question qui veut la poser, bonjour tout d'abord à nos invités, les prénoms.
Bonjour, c'est Eric.
Et là-bas ?
Alexis.
Vous êtes de la région tous les deux, je crois. Non, peut-être ? Alexis ?
Du Nord-Pas-de-Calais, okay. Sur l'île.
Oui, tout à fait, j'habite Villeneuve-d'Ascq.
Donc bienvenue aux Entonnoirs et donc on va vous laisser la parole. Tout d'abord
pour présenter l'association. Oui. Alexis, est-ce que tu veux présenter l'association?
Alors vous m'entendez bien? Alors en fait l'APF regroupe il y a la délégation APF qui sert tout ce qui est accessibilité. Elle compose aussi plusieurs clubs. Dont le club informatique. Après, ça regroupe aussi toutes différentes structures, donc un accueil de jour pour des personnes qui ne peuvent pas travailler. Ça leur permet de faire des activités différentes et leur permet de pas rester chez eux. Après, vous avez les ESAT. Alors, ça, c'est un centre d'aide par le travail. Alors, ils font différentes choses, par exemple comme du conditionnement. Après, il y a différentes choses qui regroupent suivant les ESAT à APF. Après, il y a beaucoup de manifestations qui sont mises en place, dont pour l'accessibilité, pour faire bouger les lignes et tout ça. L'APF a mis en place en même temps un conseil de vie sociale jeune qui permet de pouvoir avoir un temps de parole pour les jeunes dans les structures et puis pour pouvoir faire s'ils ont des choses à dire tout ça. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Si tu veux rajouter quelque chose, Eric, vas-y. Bah,
pour compléter les propos, l'APF c'est une association assez ancienne puisqu'elle a 80 ans cette année. Elle a été créée en 1933 par des personnes qui étaient à l'époque atteintes d'une maladie qui était la poliomyélite, qui faisait beaucoup de ravages. Depuis, l'association a évolué et c'est la deuxième association de France. On va dire qu'elle a deux aspects. À la fois, elle est gestionnaire de structures et de services. Et à la fois, elle est représentative et elle regroupe des personnes en situation de handicap pour partager, échanger, revendiquer au nom et pour les personnes en situation de handicap.
Oui, bonjour, chers auditeurs, auditrices. Voilà, je me présente, je m'appelle Hakim. Et en 2001, j'ai fait un grave accident de moto. Et j'étais paralysé pendant 6 mois, j'étais en fauteuil roulant. Et maintenant, Dieu merci, avec l'aide du Seigneur et mon envie de me battre, j'ai réussi à remarcher. Donc, je les comprends tout à fait, les gens en fauteuil roulant. Et je souhaite à tout le monde de remarcher, si Dieu le veut. Inch'Allah. Merci.
Combien il y a de bénévoles
C'est difficile à chiffrer parce qu'un bénévole, ça peut être une personne qui vient passer une heure pour offrir du temps ou une action, et puis ça peut être quelqu'un qui est là régulièrement, mais c'est plusieurs milliers de bénévoles en France. L'association, c'est à peu près 25 000 usagers, c'est à peu près 30 000 adhérents en France. Donc des bénévoles, c'est plusieurs milliers.
Oui, est-ce que vous pouvez nous parler de l'inclusion dont vous allez débattre prochainement dans vos états généraux, s'il vous plaît?
Eric, si tu peux...
Alors, effectivement, à l'initiative de l'APF, qui est dans son projet associatif, l'Association des paralysés de France a mis l'inclusion comme au centre des débats et de ses actions dans les prochaines années. Et l'APF, dans la région, lance les états régionaux de l'inclusion qui auront lieu le 4 avril prochain à Villeneuve-d'Ascq. Donc ça concerne toute la région et l'idée, c'est de faire parler des personnes concernées par le handicap, toutes déficiences confondues, même si c'est à l'initiative de l'APF, ça ne concerne pas que l'APF et l'inclusion est une thématique qui concerne toute personne qui se sent plus ou moins exclue. Donc on y retrouve effectivement des personnes qui ont des déficiences dites physiques. C'est des cases dont je vais parler, donc on n'est jamais, nous, en tant qu'individu, en tant que personne, on n'est jamais dans une case, mais voilà, pour expliciter, on parle de cases. Donc il y a les personnes en situation de handicap physique, mais il y a également des personnes qui ont des déficiences psychiques, des déficiences intellectuelles, des personnes qui sont sourdes, qui sont aveugles, etc. Mais toutes sont confrontées à une difficulté de se retrouver dans la société et comment la société les inclut, comment elle les accepte dans la vie de la société de tous les jours. Donc ça peut concerner à la fois des problématiques telles que le transport, telles que le logement, telles que le travail, telles que les loisirs, la culture, le sport, bref, la vie de tous les jours, comment je me sens inclus par la société dans la vie.
Alors, moi, je voulais savoir pourquoi parlez-vous d'inclusion et non d'exclusion comme dont sont victimes plutôt les personnes handicapées.
Alors, on parle d'inclusion pour justement bien attirer l'attention sur le fait que la difficulté et les moyens de résoudre cette intégration, cette inclusion, ne vient pas seulement de la personne elle-même, la personne concernée, mais vient aussi de la société. Qu'est-ce que moi, société, je fais pour inclure les personnes qui, soi-disant, sont différentes ? Voilà. Donc c'est plutôt comme en mathématiques, comme pour certains d'entre nous qui ont fait des mathématiques dans les plus jeunes classes, où on parlait d'un ensemble et comment on fait pour inclure une personne dans la société. Voilà, c'est pour insister sur le fait que quand on parle d'inclusion, on parle bien de ce que la société fait pour accepter, rendre accessible aux personnes soi-disant différentes.
Moi, par rapport à l'inclusion, pour faire en sorte que l'exclusion n'existe plus, je crois que c'est ça le débat. Je crois que y a plein de beaux, de jolies paroles, de beaux discours, mais finalement, à chaque fois, on nous dit oui, mais vous comprenez, on est en crise, l'État. Ouais. Donc, je crois que comment dire, ce discours qui nous endort par rapport à l'exclusion, il y en a marre. Rien que le discours, il y en a marre.
Rango.
Comment fais-tu pour vivre avec ton handicap ?
Alors, pour vivre avec mon handicap, pour vous faire un résumé. Je suis en fauteuil depuis ma naissance et donc ça passe par plein de choses, aussi bien la rééducation, dans les structures. C'est vrai que c'est difficile à vous expliquer parce que il y a plein de choses qui sont difficiles. Rien que pour nous déplacer et tout ça, bah même pour un simple trottoir, ça peut être bien difficile.
C'est difficile pour vous.
Par exemple, si je peux rajouter quelque chose, par exemple, à chaque structure qu'on doit faire, on doit demander l'autorisation à la maison départementale, du handicap, et donc c'est toujours autant de démarches, même au bout de 6 mois, 1 an, des fois le dossier a du mal à passer en commission. Donc encore plein de difficultés, entre autres.
Moi, je voulais savoir est-ce que si on voit le jour sous un côté optimiste, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont été faites en matière d'inclusion? Comme l'accessibilité pour les personnes handicapées au niveau des régions, des communes, tout ça, l'accessibilité, par exemple, pour entrer dans une administration, dans les appartements aussi. Il y a souvent aussi des problèmes de logement pour les personnes handicapées. Il faut des aménagements spéciaux pour les personnes handicapées. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une amélioration ou alors il y a encore du travail à faire, Alexis?
L'action qui est menée depuis le départ, donc en 2005, normalement, ils disent que tous les lieux publics doivent être accessibles pour 2015. C'est vrai que tous les bâtiments rénovation, ils essayent de les mettre aux normes, mais c'est quand même assez compliqué parce que déjà faut les fonds déjà, et puis, c'est difficile, c'est vrai que chaque endroit, même s'ils essayent de les rendre accessibles, reste difficile, parce qu'en fait, au lieu de demander aux personnes concernées, souvent il y a toujours encore des petites choses à améliorer.
Est-ce que t'as peur du regard des autres? Est-ce que justement, les moqueries et les l'intervention un peu, comment dire, vulgaire, les insultes et tout, comment tu vis ça au quotidien en fait? Est-ce que vraiment t'es exposé à ça ou est-ce que tu restes dans ton, ou est-ce que tu restes plutôt, tu es gens beaucoup dans les hôpitaux, ou est-ce que, et justement tu parlais d'informatique et j'adore ce que tu aimerais faire d'autre en fait, à part l'informatique, tu me parlais de multi-activités, mais qu'est-ce qui te passionnerait? Qu'est-ce que tu as une idée sur la question?
Alors en fait, il y a plusieurs activités qui ont été mises en place, notamment par l'APF et l'accueil du jour de Villeneuve-d'Ascq, notamment le paintball adapté. Je sais pas si vous savez ce que c'est du paintball ou pas.
C'est un type pour tirer, je crois.
Ouais. C'est avec des billes de peinture en fait. Qui tirent. Et des bonbons d'air comprimé. En fait, au départ, cette activité est réservée totalement valide. Et puis, avec un éducateur, on a réussi à l'adapter au mieux pour tout style de handicap physique. Et avec un bon partenariat, on a bien réussi à mettre ça en place. Après, au niveau... Oui, si vous avez des questions.
Oui, moi j'ai une question. Est-ce que la sexualité fait partie du champ de l'inclusion?
Eric, tu peux répondre là-dessus, s'il te plaît.
Mais comme je... Tout à l'heure, je parlais un peu de l'inclusion, c'est-à-dire de la vie tout à chacun. Donc, si la sexualité fait partie de notre vie tout à chacun, l'inclusion et la sexualité des personnes en situation de handicap fait également partie de ce débat-là.
D'accord.
C'est un débat qui est de plus en plus ouvert. Tout à l'heure, en venant, j'écoutais dans une autre radio un débat sur l'homosexualité. Vous savez, en ce moment, ce débat sur le mariage des homosexuels, des personnes de même sexe, etc. Et j'entendais l'histoire de l'homosexualité, comment la France, la législation, regardait ce débat entre l'amour entre deux personnes. Comme quoi, tous nos sujets de ce jour reviennent toujours à la même chose. Mais la sexualité en fait partie. Comment une personne dite différente peut pratiquer, peut avoir une relation amoureuse avec une autre personne? Est-ce qu'on lui permet? Est-ce qu'on l'aide? Notamment, la question est totalement posée, et l'APF la pose, la question, sur des personnes qui ne peuvent pas faire elles-mêmes l'acte d'amour, l'acte sexuel, et est-ce qu'elles peuvent être aidées? Comment peuvent-elles être aidées pour pouvoir parvenir à réaliser cet acte? C'est vraiment une question qui est posée, qui est... Alors, les avis sont inévitablement très divers, très partagés, différents, mais au moins le débat est posé pour avancer dans l'accès à la sexualité aux personnes en situation de handicap.
J'ai une question à poser. Le handicap est un problème qui existe partout. J'aimerais savoir si, quand vous faites par exemple bouger les choses au niveau national, par certaines peut-être lois votées pour améliorer le sort des handicapés, est-ce que vous arrivez aussi à faire bouger les choses parallèlement au niveau international, puisque le problème est partout? Est-ce que les choses évoluent de concert au niveau national qu'au niveau international? Voilà.
Alors, sur cette l'APF a a priori une vocation nationale. Pour autant, elle est fortement investie au moins au niveau européen et international, mais au moins au niveau européen. Peut-être savez-vous qu'il y a une convention internationale qui a été signée par la France pour reconnaître le droit des personnes en situation de handicap. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une action internationale sur ce domaine. Mais si on reprend la définition du mot handicap, handicap, le mot vient de hand in cap, la main dans le chapeau. Ça signifiait la possibilité de compenser des difficultés dans la notion, par exemple, de vous retrouvez ça au golf, vous retrouvez ça dans les courses de chevaux, hein, dans le turf. C'était la possibilité de compenser les difficultés d'un concurrent par rapport à un autre. En golf, on disait qu'on avait un handicap 1, un handicap 2, c'est-à-dire on pouvait comme ça gagner, entre guillemets, des points avant de concourir à égalité avec les autres. C'est comme ça que vient le mot handicap. Et cette notion internationale, elle évolue parce que le handicap n'est pas simplement la problématique de la personne concernée. Bien sûr, si par exemple moi je suis amputé d'une jambe, j'ai des difficultés pour marcher. Mais si je suis de ce fait en fauteuil, par exemple, et si je vis en France, je vais être confronté à une certaine accessibilité des bâtiments. Alexis en parlait là récemment. Mais si je vis, par exemple, en Thaïlande ou en Chine ou au Congo, bah, peut-être que j'aurai d'autres difficultés. Et ces difficultés ne seront pas dues à moi, au fait que j'ai une amputation, une jambe en moins, mais seront dues à la problématique du lieu, c'est-à-dire comment le pays organise l'accès aux bâtiments, comment le pays organise l'inclusion des personnes dites différentes dans sa société. Donc là, on a bien deux travaux nécessaires à faire en fonction de la personne et en fonction de son environnement, là où elle vit.
Une réaction par rapport au handicap et l'environnement. L'environnement n'est pas simplement social ou géographique. Il est aussi, philosophique. Parce que moi, j'ai sorti une formule à Blandine, mon infirmière, personnelle, très personnelle. Je lui ai dit, les personnes qui voient l'handicapé que comme un handicapé, ils se handicapent lui-même. C'est-à-dire que l'être humain, pour vivre le mieux possible, il n'est pas masochiste, il compense le handicap par autre chose. Enfin, je pose le problème.
Moi, j'ai une question pour toi, Alexis. Quand tu vois les Jeux paralympiques, avec les athlètes, l'athlétisme et tout ça, est-ce que en fauteuil roulant par exemple ou autre, ou est-ce que ça donne envie de te battre encore plus ou pas?
Alors en fait, par rapport aux Paralympiques, il y a des sports adaptés qui sont mis en place à la PF, notamment sur handisport. Vous avez aussi bien de la Serbacane, de la boccia, en fait c'est de la pétanque adaptée. Vous avez aussi bien du tir aux armes. Vous avez différents sports, du foot à 5, et c'est comme c'est 6 foot, mais c'est pour pas les personnes malvoyantes. Et donc, en fait, vous avez plein de sports adaptés qui sont mis en place, et notamment pour la boccia, donc c'est de la pétanque adaptée. Il y a aussi bien des paralympiques. Il y avait normalement les Paralympiques à Londres qui devaient se faire après les Jeux Paralympiques.
T'as suivi de bout en bout,
Oui, parce que, en fait, moi, en 2010, j'étais en championnat de France à Marseille pour la boccia, donc, puis comme j'aime bien ça.
Je crois qu'il y a Mathieu qui a une question.
Oui, je voulais savoir si vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'inclusion qui a lieu au quotidien. Je pense notamment au transport, mais si vous avez d'autres exemples.
On en parlait par exemple par rapport à la sexualité, par rapport à l'accessibilité des bâtiments, par rapport au transport, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas si vous, comment vous vous déplacez, mais a priori un certain nombre de vous prennent les transports en commun, le bus, le métro, le tramway. Voilà, donc il existe dans certaines villes, c'est le cas sur la communauté urbaine de Lille, mais c'est malheureusement pas le cas quand on habite un petit village ou une petite ville de la région ou de France. Il existe des transports adaptés, c'est-à-dire je téléphone à un endroit pour réserver un transport, un véhicule qui m'emmène à un autre endroit avec un tarif particulier. Donc on peut dire que c'est une forme d'inclusion, dans le sens où ça permet aux personnes de se rendre, comme tout à chacun, dans un autre lieu. Après, on pourrait dire que c'est aussi une forme d'exclusion, dans le sens où ça fait un transport spécifique. L'inclusion, la marge d'après, c'est que tous les transports soient accessibles. Et c'est ce qui commence à être le cas, c'est ce que Alexis disait pour les bâtiments, mais hein, on est dans la demi-mesure, c'est-à-dire on peut regarder la bouteille à moitié vide, la bouteille à moitié pleine, mais dans les transports, on peut se dire qu'on a entre guillemets une chance à Lille, c'est que le métro est totalement accessible, le tramway est accessible, et une grosse partie des bus sont accessibles. Pour autant, il faut-il encore que j'habite pas trop loin du bus, pas trop loin du métro, pas loin du... D'accord ? Donc voilà, donc on peut dire il y a des progrès. Bon, alors d'autres exemples d'inclusion, c'est l'école, par exemple. C'est est-ce que tout enfant, ou tout adulte, jeune adulte, en tout cas toute personne en scolarité, peut accéder à l'école comme tout à chacun ? Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, ce qui est de plus en plus le cas, c'est-à-dire de plus en plus, on a la possibilité d'inscrire ses enfants à l'école, même s'il est différent, même s'il est victime, il souffre d'un autisme, ou s'il est en fauteuil, ou s'il est sourd, etc. On a le droit et la possibilité de l'inscrire dans l'école. Mais c'est quand même une bagarre encore. C'est encore beaucoup de choses qui avancent, mais ces choses-là progressent. Donc voilà, dans des exemples très différents, ce que peut être, ce que pourra être l'inclusion.
Par rapport à l'école, moi j'ai une petite question. J'étais un peu comme vous, en fait. Hein. j'ai un peu utopiste où je me dis que l'école c'est la représentation de la société, qu'il doit avoir un peu tout le monde, même les difficultés, hein, c'est pas, faut pas fabriquer quelque chose d'élitiste. Mais j'ai regardé un reportage sur France 2 où sur les autistes, où j'ai vu un autiste qui parlait et qui a eu une agrégation, qui est devenu ingénieur et tout ça. Et donc il racontait un peu sa vie à l'école, et il racontait que c'était la période la plus difficile et angoissante de sa vie, où lui il voulait pas être là, où ses parents l'ont obligé à être là. Donc ça m'a fait évoluer par rapport à ça, hein, et puis ça m'a fait rappeler qu'il fallait quand même voir si la personne était capable de se mettre de rencontrer toute la société. Si, donc il faut quand même faire attention avec l'inclusion, que ça vienne bien des personnes, et parce que les parents auront toujours envie de faire le meilleur pour leurs enfants. Donc mais ce que vont subir les enfants à l'école, est-ce que psychologiquement ça va pas faire plus de dégâts que de l'inclusion? Donc je pense que ça, c'est différent entre les individus, mais je pense qu'il faut faire quand même attention.
Et d'où vous est venue l'idée de faire ça en fait? Pourquoi vous avez faire ce métier assez vite en étant ado, ou après dans une filière post-bac, c'est tout de suite, c'était un métier pour vous, quoi. C'était un métier pour vous.
Moi j'ai fait plusieurs métiers et je fais plusieurs métiers, et je suis pas sûr que jusqu'à la fin de ma carrière je fasse toujours le même métier, donc j'évoluerai. Mais c'est vrai que le rapport au handicap, je l'ai depuis le début de mon travail, et je travaille dans ce domaine-là en tout cas depuis. Pour répondre à la question précédente et sur l'inclusion, ça peut être aussi délicat ou difficile pour certaines personnes. Effectivement, c'est bien ce qu'on veut aborder le 4 avril, notamment dans les états-régions de l'inclusion, c'est que les gens se mettent autour de la table. Et quand je dis les gens, c'est à la fois les personnes concernées, donc vous l'avez dit, la personne elle-même, comment dans l'exemple que vous citez, la personne qui a vécu de façon peut-être agressive ou difficile sa scolarité, les parents par exemple, ou les frères, les sœurs, comment ils vivent les différences et comment ils imaginent la vie de l'autre, parce que ça fait partie de leur vie aussi. Mais c'est aussi le monde économique, les entreprises. Comment les entreprises, dans les services qu'elles rendent ou dans les produits qu'elles fabriquent, elles pensent à l'inclusion et elles pensent aux personnes dites différentes. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. C'est important aussi que le monde économique soit là. Ce sont aussi les institutionnels, c'est-à-dire comment les hôpitaux, les structures de rééducation, les structures médico-sociales, les villes, les communautés d'agglomération, les conseils généraux, etc. Comment ils voient, eux, l'inclusion, comment ils voient l'évolution des transports, comment ils voient l'évolution de l'école, etc. Donc c'est mettre autour de la table le 4 avril à la fois des paroles de personnes, à la fois des paroles de politiques, d'institutionnels, du monde économique, d'acteurs associatifs, etc. pour qu'ensemble ils discutent et qu'effectivement on aborde l'inclusion est une chose importante et il faut que nous y allions. Pour autant, il ne faut pas laisser les personnes en difficulté, sans aide, sans accompagnement, face aux difficultés qu'elles vont rencontrer au fur et à mesure de leur chemin, de leur parcours.
Voilà. Ouais, merci d'être venu.
Oui, merci. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on est obligé de pour l'instant les débats. Voilà, mais ce n'est qu'un début. Et les débats, mais aussi des actes. Voilà.
On va passer à la chronique littéraire de Sophie sur Albert Camus, Les Justes.
Oui, on va parler littérature. Donc, je voulais parler des Justes, Albert Camus, et en avant-propos, je voulais peut-être faire une petite bio brève d'Albert Camus pour voir un peu quel homme il était. Comment ça s'est manifesté, retranscrit dans son œuvre. Donc, on peut dire qu'Albert Camus est né en Algérie, en 1913. C'est un pays qui l'a beaucoup marqué. Il vient d'une famille modeste, sa mère ne savait pas lire et écrire, et en 1957, il a obtenu le prix Nobel de littérature. Il s'est beaucoup engagé contre la colonisation algérienne, mais en fait, c'était pas très cohérent, puisque après, il était contre l'indépendance de l'Algérie. Enfin, il est jamais très clair dans son engagement, en fait. Et après, ce qu'on peut retenir de son œuvre, c'est que il a une pensée de l'absurde. C'est assez compliqué, en fait. Parce que pour lui, il considère que il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Donc, ça rend le monde incohérent, sans sens. Et donc, il y a comme une fracture entre le monde et l'esprit, puisque le monde devient incohérent et l'esprit est très rationnel. Et tout ça, ça le rend complètement vidé de sens, ça rend le monde absurde, et la seule réponse à ça, c'est la révolte. Faut se révolter, faut se battre. Et dans Les Justes, c'est particulièrement des gens se battent. Il s'agit d'un groupe terroriste, socialiste révolutionnaire qui veulent tuer le grand-duc Serge, oncle du tsar. Ils s'y prennent à deux fois, en fait. Yannick Kaliakev fait une première tentative. Il échoue parce que, à ce moment-là, l'oncle est avec des enfants et ça le... Il a des remords, en fait. Il essaye une deuxième fois, il y arrive. Il est arrêté par la police, il est emprisonné. Et là, la femme du grand-duc arrive, elle lui propose un compromis. Elle lui dit « Oui, si tu dénonces tes copains, tu seras libre. » Il le fait pas et il se retrouve pendu. Il meurt. Et ensuite, Dora, sa copine, reprend le flambeau. Donc, c'est une œuvre, je trouve, qui nous interroge beaucoup sur la rébellion parce que le groupe terroriste socialiste, ils sont des gros rebelles, en fait. Tellement rebelles qu'ils sont prêts à tuer et à mettre en vrille le système en place. Donc, je me demande si vous, vous étiez rebelle et jusqu'à quel point vous pouviez être rebelle.
Je voudrais rendre hommage à Camus parce qu'un aspect de l'œuvre Camus qui est passé longtemps sous silence, c'est le premier qui a vu le totalitarisme moderne qui peut venir de la droite comme de la gauche, qui peut venir du marxisme ou de l'antimarxisme. Bon, et actuellement je trouve qu'il y a un danger de Big Brother dans notre, surtout en France, qui ressemble trop à la Corée du Nord à mon avis, dans les médias. Donc merci Albert Camus. Et par rapport à ça, par rapport juste de se révolter, on nous impose la non-violence. Ah, surtout pas de violence. Mais on nous écrase avec cette non-violence. Alors moi, je dis, en tant que révolutionnaire, la bonne violence bien ciblée pour frapper les cons. Voilà.
Il y a quelque chose qui m'interpellait sur Camus.
Oui,
c'est son combat contre le colonialisme, si j'ai bien compris. Moi, je pense que c'est un combat tout à fait noble, parce que le colonialisme, c'est la domination...
Oui.
D'un peuple sur un autre, ou alors d'un groupe de peuples sur un autre groupe, sur d'autres groupes.
C'est un peuple qui impose sa vision et qui exploite un peu l'autre.
Voilà, voilà.
C'est complètement injuste.
Et d'après beaucoup d'historiens, beaucoup de personnes à la solde de l'impérialisme, on nous a fait croire que coloniser était civilisé, alors que ce n'est pas le cas. Les peuples colonisés ont déjà leur culture, leurs coutumes, leur manière de penser, de voir la nature, la vie. Donc, pour moi, ils sont déjà civilisés. On n'a pas besoin de... Je ne vois pas en quoi un homme devrait, au nom de quelle doctrine, devrait civiliser un autre.
Oui,
C'est
un peu le christianisme qui veut imposer son point de vue à tout le monde. C'est pas forcément bien, puisqu'il faut plutôt développer les ressources propres à chaque personne et à chaque peuple.
Donc, je le félicite pour son combat contre ce colonialisme. Voilà.
En fait, Camus était romancier et philosophe en même temps.
Oui.
C'est ça, hein.
Oui, parce qu'il a développé la théorie de l'absurde.
La théorie de l'absurde, où il disait aussi qu'il s'ennuyait de la vie parce que l'absurde, en fait, en philosophie, c'était...
L'absence de sens.
C'était l'absence de sens, et c'était les gestes et les faits qui se répétaient chaque jour et dont il en avait assez. Tous les jours, il disait, l'homme fait la même chose, il en avait assez, en fait.
Oui, le quotidien.
C'est le quotidien dont il en avait assez, et il appelait ça l'absurde. Sa philosophie, c'était à quoi bon vivre, puisque tous les jours on fait la même chose. Donc
oui,
l'homme s'ennuie.
Et toi, tu penses la même chose aussi, le quotidien, ça t'ennuie ou pas?
Le quotidien m'ennuie, mais grâce au biais de la culture, j'essaie de trouver une autre vision des choses. Par la culture, j'essaie de m'intégrer et de remodeler un petit peu mon monde, en fait.
Oui. Alors, tu posais la question de qu'est-ce qu'être rebelle, c'est ça?
Qu'est-ce qu'être rebelle?
Alors, je pense qu'effectivement, on ne répond pas vraiment, quand on prend le micro, à cette question qui est importante. Le fait peut-être de prendre le micro, on peut être rebelle. Le fait d'écrire, on peut être rebelle.
Mmh.
Alors, il y a différentes formes de rébellion.
Mmh.
La parole peut être un mot, peut être rebelle.
Oui.
Alors, voilà. Donc, Camus l'a écrit, effectivement, il n'y a pas que Les Justes, mais bon, tu as présenté Les Justes, qui est effectivement un de ses plus grands bouquins. Il y a d'autres, hein.
Le rebelle, c'est un état d'esprit. Après, on peut ne pas vouloir tout démolir. On peut être rebelle dans son attitude.
Voilà. Donc voilà. Il y a des rebelles là actuellement au Mali. On est le rebelle de l'autre, quoi. Ça dépend dans quel système on est.
Oui.
Voilà. C'est...
Les entonnoirs, les entonnoirs.
On va passer à la musique de Brahim, Ayam, l'école du micro d'argent. Si tu veux nous en parler de ta chanson, Brahim.
Bon, je vais passer du... la chanson, c'est pour tout le monde, voilà, pour les amoureux, pour tout le monde, voilà.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Et chill, je crois que tout le monde doit profiter pour aller faire un tour dehors. J'en ai assez de solide hôpital. J'ai d'un micro rapidement pour mon équilibre et capital.
Jean, regarde dans le couloir.
Y'a rien.
Partons, ils ne s'en apercevront que demain. Alors pas de bruit avant de sortir de cet enfer. Le veilleur de nuit est dans le vestiaire avec une infirmière.
Le métro,
quel est le crédit dans tes poches?
Zéro, tant pis on enjambe. Oh, ça sent le micro.
Ouh,
là, le signal d'alarme à ne briser qu'en cas
d'accident. Tout abus sera puni, je m'en contrefous, j'abuse. J'exerce ma voix, ici I am. Check. Un, deux, pour des contrôleurs, mes mains sont moites de ma bouche, je sèche mon front en sueur.
Pousse-toi, chill, test. Taillons la fuite, vite, sortons du métro. Allons nous cacher dans les HLM un peu plus haut.
Joe,
quoi encore?
Des interphones sonnent, montre-leur qui tue au microphone.
Ils sont arrivés un matin par dizaines, par centaines. Sur des monstres de bois, aux entrailles de chaînes, sans manger une question. Pas même de présentation, ils se sont préparés.
Allez, moi le fusil! Nous sommes deux malades atteints de micro. La simple vue d'un jour nous est interdite.
Donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi le. Donc ce micro j'y peux rien, j'en suis à fond. Donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi. Donc ce micro j'y peux rien, j'en suis à fond. Nous passons devant un parc où il y a des gosses qui jouent, dont l'un avec un bichon presque à 7 micros et tout. Mon petit, veux-tu bien me prêter ton jouet? Tu serais gentil, je me sens de l'essayer.
Non!
Bon, le merdeux, il la ferme et il me file le jouet maintenant.
Maman, elle m'a piqué mon micro!
Allez, chill, on se tire.
Pour aller où moi j'ai faim.
Bon ben, McDo, ça te va, hein? Allez, viens.
Je veux trois cheese, un sprite avec des glaçons, mais pas trop. Et puis non, laisse-moi faire la commande et donne le micro.
Trois cheese, un sprite, je vois deux big et trois frites. Une portion de nuggets, bien cuite et vite. Ils sont arrivés un matin par dizaines, par centaines.
C'est bon, allez, tenez.
On sent du fast-food, ça sent le micro. Hey, la rue cognacée, les fameux studios télé.
Laissez passer déjà, je ne suis pas à l'heure. Je suis le nouveau sonorisateur et je viens pour qu'on me donne
le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi. Le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi. Le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi. Donc ce micro, j'y peux rien, j'en suis à fond, donne-moi. Le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi.
De micro Dorothée, tu peux toujours appeler à ton secours les musclés, ce qu'il est léger en plastique mouré. Oh, c'est un mauvais micro de la marque Yoko.
Changement de studio chez Pascal Sevran, les rythmes sont navrants, les thèmes décevants. Tu dis que 92 c'est comme le rap s'est rappé en 93. Tu donnes le micro, t'es un vestige du passé.
Un peu plus loin chez Foucault, on déambule dans les couloirs, les bras chargés de micro. Oh oh oh, mais qui vois-je là, ce brave traîner?
Oui, j'entends,
je ne crois pas.
Direct, ça y est, ça reprend, je le sens, je transpire. L'odeur du micro m'attire irrésistiblement. Charles, donne. Charles, j'ai dit donne.
Ils sont arrivés un matin par dizaines, par centaines. Sur des monstres de bois aux entrailles de chaîne. Donne-moi le micro et le nom de ce thème. Pas la peine de dire que le groupe s'appelle.
Non, 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 dis pas.
Ah bon?
Mais tu viens de dire que c'est pas la peine.
Ah bon? Ben y'a quoi après?
Ma foi.
Ah oui.
Donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi. Le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi. Donc ce micro, j'y peux rien, j'en suis à fond, donne-moi. Le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi. Le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi. Le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi. Donc ce micro, j'y peux rien, j'en suis à fond.
Les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Parce que ce n'est pas ça, parce que je suis fou dans la tête. Et ça gratte des poux sur ma tête. Et je viens plus fort, c'est ça, les tatouages.